Oh, mikir sepastil.
Mikir sepastil.
Oh, mikir sepas.
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 9 avril. Et on commence avec l'actualité dont on a déjà touché quelques mots, si vous l'avez entendu, l'interview qu'on a réalisée avec Frédéric Nambrini du collectif CHAP. Ça a été évoqué donc la fin d'un service de prêt de matériel scénique du département de l'Hérault. C'était le service qui s'appelait HMS, Hérault Matériel Service, tout simplement. Eh bien, la fermeture brutale de ce service au début de ce mois d'avril a été annoncée et tous les acteurs culturels s'en inquiètent, notamment les organisateurs ou organisatrices indépendants d'événements de spectacles vivants qui sont tous sous le choc. Donc depuis ce mardi 2 avril, ça fait une semaine qu'ils ont reçu ce petit SMS laconique écrit ceci. Le département de l'Hérault a pris la décision de mettre fin au prêt de matériel technique et scénique au bénéfice d'un tiers à compter d'avril 2024. Un message donc sec, pas de mail, ni de lettres, ni de coup de fil. Voilà donc de la part de HMS, Hérault Matériel Scénique. Et c'est ainsi donc que tous ces acteurs de la culture ont appris la fermeture soudaine et sans explication de ce service public, pourtant qui était très très utilisé et qui permettait pour nombreux acteurs et actrices, selon eux, une certaine démocratie culturelle. Il suffisait donc de réserver suffisamment à l'avance pour se voir bénéficier d'une partie de ce parc technique important. Il y avait des spots, du matériel électrique, de la sono, tout ça gratuitement. Donc, ce qui permettait d'organiser pas mal d'événements culturels, ça le permet encore, donc sans avoir trop de frais là-dedans. Et donc ça permet aussi aux petites structures de s'en sortir face à des fois des poids lourds et des prix exorbitants quand on veut organiser des choses de qualité. Le principe, c'était donc de collectiviser des moyens sans discrimination esthétique, hein, à savoir on ne vous demandait pas quel était le projet pour vous prêter ce matériel. Il permettait donc à toutes ces structures de spectacle qui n'en auraient pas les moyens administratifs d'avoir accès à des subventions classiques ou suffisantes à l'organisation de leurs événements. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le matériel, on peut avoir de la sub, par exemple, pour payer les artistes ou organiser le reste du festival. Ce qui permettait donc de faire exister aussi une offre autonome, diverse, de proximité, souvent bien plus proche des véritables pratiques culturelles du commun des mortels que celles proposées par les grandes institutions. Ça, c'est une petite pique de l'auteur de cet article qui a donc rendu compte de cette information dans les colonnes du journal Le Point sur Montpellier. Le service HMS est un instrument de soutien indispensable donc pour beaucoup d'acteurs culturels associatifs, indépendants et de petite taille. En prêtant ce matériel technique, je le rappelle, donc du son, de la lumière et de l'électricité, ça permettait à de très nombreux événements d'exister, et notamment pour des structures qui n'ont pas les moyens de louer à des prestataires privés ce matériel ou qui n'en auraient pas possession eux-mêmes, donc dont l'économie repose en partie sur du bénévolat et de la débrouille. Il y a beaucoup d'incompréhension autour de cette décision qui promet un avenir hyper alarmant pour notre secteur. On est un territoire qui est particulièrement bien doté en initiatives citoyennes, c'est une chance. Cette décision va remettre en question le travail de beaucoup d'assos qui font un travail considérable pour faire exister des espaces de joie, de rencontre, de sociabilité. Ça, c'est la réaction de Lalou, qui fait partie de Mélando, que vous avez déjà entendu certainement sur les ondes de Radio Escapade. Elle est coordinatrice artistique pour l'association qui œuvre autour du Pic Saint-Loup. Yann, qui fait lui partie du collectif Lanceur d'Arlette, un cirque qui fait du cirque du côté de Nîmes, s'exprimait lui aussi le jour même. On ne sait pas encore qui a pris cette décision, pourquoi elle a été réellement prise, mais ce qu'on peut imaginer, c'est le nombre de festivals d'initiatives culturelles qui dépendaient de ce service et qui ne pourront plus avoir lieu, car ces structures n'ont pas les fonds pour passer par des prestataires payants. Voilà, même ton, même sidération pour l'asso What The Fest, qui a lancé sur les réseaux sociaux l'appel à une gueulante pour protester contre cette information. On a eu le droit à un post laconique moche qui ressemble presque à un poisson d'avril ou à un hackage du KGB. Le timing est parfait. Même pas la décence d'envoyer un mail à toutes les assos pour les prévenir un peu en amont de la fin abrupte de ce prêt de matériel, peut-on lire dans la description. Donc une annonce qui a été faite il y a une semaine et qui est censée prendre effet assez rapidement. Si la décision est donc maintenue, ce qui on l'espère ne sera pas le cas, de nombreuses structures associatives pourraient donc ne pas maintenir leurs événements pour cette saison. C'est à environ plus de 300 événements par an qui seraient menacés sur le territoire, un total d'aide estimé à 1 600 000 euros par an et qui touche plus de 500 000 spectateurs ou spectatrices estimés d'après les chiffres du département lui-même sur la page qui n'existe plus donc de ce service. À noter donc que je vous le disais que le festival CHAP à Vieux-le-Fort passe de justesse entre les gouttes puisqu'ils sont programmés là à la fin de la semaine, donc au mois d'avril. Mais que va-t-il se passer pour le reste de l'été? Des engagements déjà proposés, des structures qui comptent sur ce matos cet été, pour l'instant on n'en sait pas beaucoup plus. Par exemple, les Trans-Sévenol, je crois, bénéficient en partie du matériel des HMS. Alors il a été contacté par téléphone, ce service départemental qui, vous l'imaginez bien, a les oreilles qui sifflent en ce moment et le téléphone qui chauffe. Mais ils ont confirmé la soudaineté de cette fermeture qui explique qu'il aurait été décidé par le cabinet du président du département et dont le responsable du service technique a été prévenu le vendredi même, donc pour annoncer ça le lundi. Donc on imagine qu'ils sont aussi sidérés que tout le monde. Nous n'avons nous-mêmes pas plus d'explications, d'ailleurs, confirmé cette personne à l'accueil téléphonique. Le président du département de l'Hérault s'appelle Kléber Mesquida, il a 78 ans et rappelle à Musée cet article, déjà 89 ans de mandat cumulé au cours de sa vie, d'après sa fiche Wikipédia. Alors à noter qu'aujourd'hui même sur France Bleu Hérault, on a un article là-dessus avec justement une interview de Yann dont j'ai retranscrit quelques paroles un peu plus haut. Et on apprend que du côté justement du département de l'Hérault, l'explication c'est que c'est interdit par la loi de prêter du matériel gratuitement ou en dessous de la valeur locative pour éviter la concurrence déloyale avec les prestataires privés. Et ils sortent un article du Code général de la propriété des personnes publiques. Ça semble un argument bizarre vu que bon, c'est un service public. A priori, on n'est pas dans de la concurrence. Tout n'est pas privatisé. Puis jusque-là, ils le faisaient. Donc c'était quand même, a priori, suffisamment légal pour qu'eux le fassent et que de nombreux autres départements de France, d'ailleurs, aient des offres similaires. D'ailleurs, si on redonne la parole à Yann, qui fait partie de ce collectif qui s'appelle le Lanceur d'Arlette, ils ont créé une pétition pour sauver ce service. Il était donc au micro de France Bleu ce matin. Ça rassemble un grand nombre de personnes sur le département. On voit que sur 2022, 400 événements ont été aidés par ce service. Ces 400 événements, ils rappellent les chiffres, c'est 1,6 million d'euros de matériel prêté, donc d'argent qui n'aurait pas pu être sorti évidemment par ces structures. 500 000 spectateurs concernés. Il dit « Nous, on organise des spectacles dans les parcs publics. Il nous faut beaucoup de rallonges électriques, de projecteurs pour éclairer, de matériel audio pour pouvoir sonoriser les concerts. On n'a pas forcément les moyens d'investir dans du matériel, donc c'est quelque chose de très important pour nous. Il y a aussi des événements qui ont lieu dans des lieux non dédiés où il n'y a pas forcément le matériel nécessaire. » Il rappelle que jusque-là, eux, justement, leur proposition, c'était de faire des spectacles gratuits et que s'ils doivent se mettre à louer tout le matériel pour remettre en place ces spectacles, ils ne le feront certainement plus. C'est pourquoi, en tout cas, avec d'autres associations culturelles ou compagnies de spectacles vivants, ils ont créé un collectif qui s'appelle tout simplement Sauvons HMS, dont il est devenu un des porte-parole. Une pétition a été créée ce matin même. Vous pouvez la retrouver en tapant donc Sauvons HMS et puis vous mettrez une petite signature pour espérer peut-être que cette décision soit revue. Quelques brèves du tour du monde où ça chauffe à Bogota, tout d'abord la capitale de la Colombie. Les étudiants de la Universidad Nacional, donc l'université nationale, sont en grève illimitée contre l'élection du nouveau recteur et pour réclamer plus de moyens humains et financiers pour l'université. C'est un mouvement qui monte en puissance depuis plusieurs semaines. Des assemblées générales immenses ont lieu, soutenues par certains professeurs. Des blocages sont organisés et des affrontements ont lieu autour de l'université. Un équipage de police a même été pris pour cible le 4 avril dernier, faisant beaucoup réagir dans le pays avec une vidéo qui a fait le tour des médias. Au printemps 2021, le peuple colombien était déjà massivement descendu dans la rue contre le gouvernement ultralibéral et répressif de son président Iván Duque. Des mois d'émeutes très violemment réprimées ont eu lieu, bouleversant l'histoire politique du pays. Et depuis donc ce printemps insurrectionnel, la Colombie, qui était l'État d'Amérique latine le plus à droite depuis des décennies, dirigée par ce qu'on peut qualifier un gang de narco-politiciens, depuis donc elle est passée à gauche avec un président nommé Petro, un ancien guérillero des FARC. Les mouvements sociaux mettent donc sous pression le nouveau pouvoir pour continuer à arracher de réelles avancées, et les étudiants n'ont pas dit leur dernier mot. Ça chauffe aussi, mais malheureusement pas dans ce sens-là, en Afrique, où on a recueilli des records historiques avec la température avoisinant les 50 degrés Celsius au Mali. Plus précisément, 48,5 degrés, c'était mercredi dernier à Kayes, dans l'ouest du Mali, donc proche de la frontière sénégalaise. Il n'avait jamais fait si chaud dans le pays, quelle que soit la période de l'année. Donc ce niveau a été atteint donc à Kayes, à l'ouest du pays. Le précédent record datait de 1988, il s'était produit dans la ville de Gao, au centre du Mali. À l'époque, le record était de 48,2 degrés. Et par ailleurs, si on prend en compte les résultats des stations météo les plus fiables sur le continent africain, cette température de 48,5 degrés Celsius constitue un record absolu du mois d'avril pour toute l'Afrique. Le précédent point le plus chaud, on était à 48,3 degrés, et c'était en 2003 au Soudan, à Karima. L'Afrique du Nord connaît des températures souvent supérieures de 15 à 20 degrés aux moyennes de saison dans cette période, et en ce moment même, ça continue à flamber. La nuit, les températures peinent donc à redescendre en dessous des 30 degrés. De nombreux Kayesiens, donc les habitants de la ville de Kayes, dorment sur leur toit à la belle étoile pour essayer de capter un petit peu d'air, un peu de fraîcheur. La prévention est nécessaire pour protéger au mieux les personnes les plus vulnérables face à cette canicule. En effet, ces remontées de chaleur peuvent amener beaucoup de conséquences chez les patients des hôpitaux, notamment beaucoup de transports aussi de personnes malades vers les hôpitaux, surtout des vieilles personnes déshydratées à cause de la chaleur. Les personnes âgées et les enfants sont en effet les principales personnes à risque. Good. Quand il fait très chaud comme cela, le gouvernement du Mali, à travers son agence nationale de météorologie, a recommandé dès hier d'éviter si possible les activités physiques au soleil et de boire 1,5 litre d'eau par jour. Certaines administrations ont même changé les horaires de travail pour éviter justement le pic de chaleur de la journée. Et ce mois de mars aussi, les chiffres météorologiques, le bilan du mois de mars sont tombés. C'est un mois de mars qui n'avait jamais été aussi chaud au niveau planétaire. C'est donc aujourd'hui que l'Observatoire européen Copernicus a dévoilé le bulletin climatique mensuel qui couvre donc le mois de mars. Les experts météorologistes ont enregistré une température de l'air en surface de 14,14 degrés Celsius sur Terre. On est à 1,68 degrés Celsius au-dessus des chiffres de la période pré-industrielle. C'est un peu la période de référence qui s'étale de 1850 à 1900. Le précédent record pour ce mois de mars avait été établi en 2016. On était à 14,04 degrés Celsius en moyenne, donc de l'air à la surface de la Terre. Et ce n'est pas tout, puisque mars 2024 signe aussi le 10e record mensuel consécutif. À savoir que sur les 12 mois écoulés, de avril 2023 à mars 2024, la température globale est la plus haute jamais observée.
C'est pour ça.
Ça ne veut plus rien dire, hein ?
C'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant. J'ai demandé un petit café, c'est pour ça.
Hier, ce lundi 8 avril, 17 personnes ont été arrêtées en Normandie et en Île-de-France suite à une action militante menée contre une centrale à béton de Lafarge. C'était le 10 décembre dernier, près de Rouen. Les militants avaient alors envahi le site, tagué quelques bâtiments, jeté les documents des bureaux par les fenêtres et vidé quelques sacs de pigments de coloration pour béton et des barils de sable. Une partie de ces militants arrêtés ont été emmenés dans les locaux de la sous-direction antiterroriste, rien que ça, à Levallois-Perret, à Paris. Ils pourraient donc y rester 96 heures, comme le prévoit la loi antiterroriste. L'usage récurrent de ces moyens, justement, de l'antiterrorisme, pour diaboliser spécifiquement les mobilisations menaçant les intérêts des lobbies industriels est frappant, dénoncé dans un communiqué de presse le collectif des soulèvements de la Terre. Trois rassemblements de soutien étaient déjà organisés hier, à Rouen devant le palais de justice, à Levallois-Perret devant les locaux de la sous-direction antiterroriste et à Caen devant la préfecture.
Des nouvelles du monde.
Et puisqu'on parle justement de la farge et du béton, un autre article à mettre en miroir à cette info. Depuis 2016, 57 industriels sont responsables à eux seuls de 80% des émissions de dioxyde de carbone dans le monde. Ce sont des résultats ahurissants d'une étude publiée ce 4 avril à partir de la base de données de Carbon Majors. Donc 80% à 4/5 de la production mondiale de CO2 est imputable à 57 grandes industries des énergies et du béton, et ce depuis la COP21. Ce rapport montre que la majorité des émissions mondiales de CO2 produites depuis l'accord de Paris peuvent être attribuées à un petit groupe de grands émetteurs qui ne parviennent pas à ralentir leur production. Carbon Majors, qui est donc à l'origine de ces chiffres, c'est une base de données historique sur la production de 122 des plus grands producteurs mondiaux de pétrole, gaz, charbon ou ciment, donc les grosses industries actuelles du XXe siècle et XXIe siècle. Ces données permettent de quantifier les émissions opérationnelles directes, donc celles qui sont vraiment produites par exemple par une usine, et les émissions liées à la combustion des produits commercialisés qui peuvent être attribués à ces entités. Par exemple, le pétrole, donc ils prennent aussi en compte, après, une fois que le pétrole est cramé dans les voitures, ce que ça représente comme CO2. Parmi les firmes, donc on est, vous l'aurez compris, on pointe les industriels du doigt, mais c'est aussi tout un mode de vie et de consommation qui est pointé, puisqu'au bout du compte, le béton, le pétrole, eh ben, ils servent aussi à faire des logements et des véhicules. Parmi les firmes du désastre qui sont passées au crible de cette analyse, donc 75 entreprises qui sont détenues par des investisseurs privés, 36 entreprises publiques et 11 la propriété d'État-nation. On est sur une étude globale, hein, à l'échelle de la planète Terre. Cette base de données en tout recouvre 72% des émissions mondiales de combustibles fossiles et de ciment depuis le début de la révolution industrielle qui est datée à 1751. Il rappelle quand même qu'en 2015, l'accord de Paris a fixé de limiter ce réchauffement climatique à plus 1,5 degré Celsius d'ici la fin du siècle. La communauté internationale s'était engagée à faire baisser drastiquement les émissions de gaz à effet de serre pour préserver des conditions de vie sur Terre. 8 ans après cette COP21, donc, quelques dizaines de multinationales écocidaires, c'est le mot qui est utilisé, n'ont jamais autant pollué que par le passé. Les multinationales saccagent impunément la planète tout en engrangeant des profits records. Le capitalisme est un désastre social et humain doublé d'une catastrophe environnementale hardcore. Voilà, ce sont les termes de ce petit billet qui relate ces chiffres sur le média Contre-Attaque qu'on peut retrouver en ligne notamment sur Facebook. Et il termine en rappelant qu'en France, l'État incite la population à faire des petits gestes pour sauver le climat, tandis que les autorités utilisent l'antiterrorisme contre les écologistes et décore le PDG de Total Energy.
Non mais n'importe quoi, non mais...
À Paris, près de 240 personnes ont occupé un lieu culturel pour dénoncer les expulsions de personnes exilées en vue des Jeux Olympiques. Pas de logement, pas de JO, un des slogans qui a été affiché sur la façade de la Maison des Métallos. C'est un haut lieu culturel parisien qui est occupé donc depuis ce samedi 6 avril par 244 personnes pour dénoncer leur expulsion à cause des JO. La plupart de ces personnes, ce sont des mineurs en attente de papiers qui vivent pour l'instant dans des gymnases parisiens. Et ces gymnases vont être réquisitionnés pendant les Jeux afin d'y loger les forces de sécurité. On est venu nous dire qu'on allait nous envoyer à Marseille. Nous ne voulons pas partir, sinon il faudra recommencer à zéro les papiers et encore attendre des mois, explique un de ces jeunes qui s'appelle Alsouni, il a 16 ans. Il est arrivé de Guinée au mois de novembre dernier. Aujourd'hui, renchérit aussi son ami qui s'appelle Barry, on ne nous propose rien de concret. Nous resterons ici jusqu'à ce qu'on réponde à nos demandes. Ils réclament en fait un hébergement digne, le temps de terminer leur long parcours administratif. Également l'accès à une couverture médicale, l'éducation, les transports gratuits ainsi qu'aux cantines solidaires de la ville. Et bien en attendant tout cela, la solidarité s'organise hein, devant la Maison des Métallos. Des militants déchargent des briques de lait, bouteilles d'eau, gobelets en carton, thé, sucre, soda. S'ils peuvent manger, les occupants ne peuvent pas se doucher et dorment directement par terre, parfois même sans couverture. Des conditions très difficiles donc et une situation qui met mal à l'aise la mairie de Paris. Par exemple, la presse n'a pas été autorisée à pénétrer dans ces locaux pour pouvoir constater les conditions de l'occupation organisée par un collectif. Ce collectif s'appelle le Collectif des Jeunes du Parc de Belleville. Il date d'octobre de l'an dernier. Il a été créé par des habitants du quartier. À l'époque, justement, une de ses militantes, Amaya, explique que 300 jeunes dormaient le soir dans le parc de Belleville. C'était à 200 mètres de chez moi, alors on les a approchés pour pouvoir les aider, explique-t-elle. Et ce collectif a depuis mené plusieurs actions pour obtenir des places d'hébergement dignes, notamment en février dernier à l'Académie du Climat. Cette fois-ci, ils ont donc ciblé la Maison des Métallos, un établissement culturel de la ville, lieu historique aussi des luttes sociales de la capitale. Pour l'adjointe à la mairie de Paris, Léa Filoche, qui est en charge des solidarités, de l'hébergement d'urgence et de la protection des réfugiés, le désinvestissement de l'État sur la prise en charge des personnes exilées est déplorable. Elle dit « En 4 mois, c'est la 7e fois qu'un lieu municipal est investi de la sorte par des personnes demandant simplement une prise en charge digne. Aujourd'hui à Paris, mais comme dans d'autres villes de France, nous gérons à la place de l'État des situations d'hébergement d'urgence. » Mais sans les moyens ni le droit, alors qu'en fait on aurait pu faire autrement. Utiliser les Jeux Olympiques pour faire des lieux d'accueil nouveaux, pérennes et dignes par exemple, c'est insupportable de savoir que des solutions existent mais qu'elles ne sont pas activées, termine cet élu. Et oui, comme il l'est souligné, l'État a pourtant obligation de proposer un dispositif d'hébergement d'urgence à toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Et qui plus est, quand il s'agit de mineurs, dont notamment les mineurs étrangers, la charge est à la charge du département. Mais visiblement, en Île-de-France, on a d'autres chats à fouetter en ce moment. Et d'ailleurs, on va terminer là-dessus, puisqu'en Île-de-France, on semble même essayer de se débarrasser de ces sans-abri en les expulsant plus loin. C'est le maire de la ville d'Orléans qui dénonçait l'arrivée en catimini de centaines de sans-abri dans sa ville en provenance de Paris, et cela dans le but de nettoyer la capitale avant les JO. Un article du 25 mars dans lequel le maire d'Orléans, qui s'appelle Serge Grosaur, un ancien des Républicains, qui assure que depuis le mois de mai 2023, donc depuis quasiment un an, toutes les 3 semaines, il y a un car qui est affrété de Paris et qui embarque des personnes migrantes en situation irrégulière et sans domicile fixe pour les amener à Orléans. Donc à chaque fois une 40aine de personnes par bus. Il estime donc que cela représente aujourd'hui un total de 500 personnes depuis l'année 2023, depuis mai 2023. Le maire d'Orléans explique ne pas avoir de certitude sur un lien avec les Jeux Olympiques de Paris, mais cela semble quand même corroborer la politique générale observée sur place justement par les militants dans la problématique très complexe de l'hébergement, que ça concerne les étudiants aussi, ou les personnes qui vont sous-louer leurs appartements sur Airbnb à des prix exorbitants. En tout cas, la pression immobilière n'a jamais été aussi forte sur Paris, et visiblement même pour dormir dans la rue. Les associations d'aide aux personnes précaires partagent d'ailleurs le constat du maire. Depuis un an, plusieurs centaines de personnes ont bien été évacuées de camps de migrants ou de squats sur Paris et dirigées donc vers 13 SAS d'accueil en région, et ce à la demande de l'État. Depuis l'arrivée des Jeux Olympiques, on envoie systématiquement les personnes hors d'Île-de-France, confirme par exemple Paul Allozy de Médecins du Monde. Il dit que c'est juste un déplacement de sans-abri et qui se retrouve ensuite dans des petites villes où il y a beaucoup moins de moyens, à la rue alors qu'ils n'ont pas de réseau d'entraide, et sans ce réseau d'entraide, sans solution de logement pérenne, eh bien une partie de ces personnes préfèrent dans tous les cas retourner à Paris. Donc c'est déplacer des gens en bus pour qu'ils remontent finalement par leurs propres moyens. Paul Allozy, d'ailleurs de Médecins du Monde, est également le porte-parole d'un collectif qui s'appelle Le Revers de la Médaille, un collectif regroupant une 60aine d'associations qui dénonce une tentative de nettoyage social des rues de Paris à l'approche des JO. Pour ce collectif, les grands événements sportifs engendrent un risque avéré de nettoyage social des rues avec des logements de sans-abri, réduction des places d'hébergement d'urgence, fermeture des points d'accueil et enfin arrêt de la distribution de l'aide alimentaire, etc. En octobre également, le gouvernement avait d'ailleurs créé la polémique en proposant à l'époque 100 euros de dédommagement aux étudiants qui seront exclus de leur logement Crous pendant la compétition. Et je crois que c'était aussi pour y loger des travailleurs ou la sécurité justement des Jeux Olympiques. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ces nouvelles du monde. Vous les retrouverez en rediffusion aux alentours de 19h30. On se donne rendez-vous jeudi pour d'autres actualités. D'ici là, portez-vous bien.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein, les informations, ça manque pas, mais il faut choisir hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.